Vous étiez venu nous expliquer l'impact psychologique justement sur la population il y a quelques temps, avec une hausse de 50% d'admissions dans les services fermés en psychiatrie. Est-ce que la tendance aujourd'hui est la même? Est-ce qu'elle s'améliore ou est-ce qu'elle s'aggrave?
Donc la tendance est restée la même tout au long. Il y a un petit fléchissement depuis la semaine dernière, mais qui n'est pas assez significatif pour dire que vraiment c'est une amélioration. Donc dans mon hôpital, ça a été plus de 50%, mais dans d'autres hôpitaux, ça a été plus 80%, voire plus 100% de mise en observation. Donc la mise en observation, c'est une procédure extrêmement violente pour les gens. Donc c'est une hospitalisation sous contrainte, sur décision du procureur du roi. Donc les gens arrivent à l'hôpital dans un service fermé, qui est un service comparable à une prison, puisque... vous êtes fouillé, vous arrivez avec l'ambulance, la police, hein, sur une décision et vous ne pouvez pas sortir, évidemment, tant que le procureur, tant que le juge de paix n'a pas décidé que vous pouviez sortir. Et donc, ce nombre d'hospitalisations sous contrainte a vraiment explosé et c'est dramatique pour les gens parce que les gens témoignent parfois 30 ans, 40 ans plus tard de la violence que ça a été pour eux, l'expérience d'une mise en observation et le fait de vivre dans un service tout à fait fermé avec des gens qui vont très mal, des gens parfois qui sont très violents, c'est difficile à vivre. Alors une particularité, c'est qu'on a vu quand même beaucoup de personnes âgées décompensées. Et il m'est arrivé quand j'étais de garde d'arriver, de recevoir mise en observation des personnes de plus de 65, 70, voire 80 ans, qui étaient d'ailleurs des personnes à risque au niveau de la Covid, et qui étaient mises en observation parce qu'on les avait trouvées errantes, elles avaient été hospitalisées dans un hôpital général, puis de là, elles essayaient de sortir de l'hôpital.
Qu'on s'entend pas assez... bien, tout ça est lié à la crise actuelle.
Ah, clairement, l'augmentation est liée à la crise actuelle et à beaucoup de personnes qui ont décompensé, qui n'avaient jamais décompensé avant, et c'est le cas de nombre de personnes âgées.
Tout cela est évidemment très fort, très inquiétant, aussi même glaçant dans le témoignage que vous venez de nous apporter. Est-ce qu'on a des comparatifs que l'on peut faire avec des situations antérieures que nous avions connues auparavant? Les mots très très forts de l'homme que nous venons d'entendre là, il y a un instant, qui parle de suicide, même si lui n'est pas concerné par ces envies-là. Est-ce qu'on sait si des vagues comme celle-là ont déjà été connues dans le passé?
Alors, on ne parle pas des mêmes personnes, ça je tiens à le souligner. Le problème des suicides, justement, c'est que c'est des personnes qui n'arrivent pas chez le psy, en général. Je pense à des suicides chez des indépendants, je pense à des suicides chez d'autres personnes, chez des jeunes. On sait que c'est la vague des jeunes qui est fort touchée par le suicide. Donc ce sont des personnes qui ne vont pas spontanément demander de l'aide. Chez les indépendants, il y a une culture de se soutenir soi-même, se débrouiller par soi-même. Ce n'est pas des gens qui vont aller spontanément. C'est pour ça que c'est tellement important, justement, dans les mutuelles, dans les soutiens en classe moyenne, etc., de créer des dispositifs qui permettent d'accueillir ça. Donc moi, ce ne sont pas des patients directement qui m'ont appelé en disant « je suis indépendant, j'ai des problèmes financiers, je vais me suicider ». C'est très prosaïquement mon comptable qui m'a dit qu'il était effaré par le nombre d'indépendants qui lui faisaient des menaces suicidaires. Donc ça, ce ne sont pas les mêmes patients. Mais ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que les chiffres de la crise économique de 2008 ont montré qu'il y a une très nette augmentation des suicides aux États-Unis et au Canada.
Ça va durer combien de temps, cette vague-là?
Ça s'est échelonné certainement sur 2 ou 3 ans.
Il y a un message qui complète ce que vous venez de dire, et je le découvre d'ailleurs en même temps que vous. On peut le lancer, nous est envoyé sur Facebook. Olivier nous dit « Les conséquences de la crise sanitaire vont engendrer plus de morts que le virus lui-même ». Ça, c'est peut-être un peu caricatural et excessif, mais on a bien senti en tout cas l'importance d'analyser cette vague-là. Et puisque vous parlez des indépendants, mais je voudrais me tourner très naturellement vers vous, Monsieur Delforge. Cette culture-là, qui dit « c'est difficile de se résoudre à demander de l'aide jusqu'à aller préférer l'irréparable », c'est quelque chose que vous avez entendu autour de vous?
Oui, notre secteur est encore plus particulier qu'il n'est pas confronté à l'échec. Chez nous, le taux de faillite, il est de 0%. Les gens ne sont pas habitués à être en difficulté. Et je pense que c'est très compliqué. Aujourd'hui, j'ai la présidente du CPS de Bruxelles qui m'a téléphoné en me disant « je vais être proactif, je vais contacter tous les forains qui sont domiciliés à Bruxelles, leur envoyer un courrier pour dire ce qu'on peut faire pour eux ».
Et vous me confirmez cette culture-là? Commettre l'irréparable quand on est indépendant, c'est
c'est possible, mais c'est compliqué. Moi, je peux dire mon vécu, évidemment. C'est que tous les jours, c'est un poids. Je veux dire, comment je vais faire demain? Et comment? Et je n'ai pas de perspective. Parce que nous, c'est un travail saisonnier en plus. Ça veut dire que nous, la saison se termine octobre, novembre, mieux. Et on doit tenir le coup jusqu'à l'année prochaine. Je ne sais pas comment on va faire.
Cécile Lioneuil, ça veut dire qu'il faut s'attendre demain. On est en train de parler d'une deuxième vague ici qu'on ne soupçonnait pas. On nous a parlé d'une deuxième vague sanitaire qu'on est manifestement en train d'éviter. Mais la deuxième vague sociale s'annonce grave, s'annonce très très grave. Ça veut dire, sans rebondir sur la question du suicide, qu'il faut s'attendre à voir demain, par exemple, des services d'aide sociaux, des CPS, déborder, peut-être même que c'est déjà le cas, et qu'on ne le sait pas encore ?
Alors, d'abord, on souhaiterait que ce soit un peu plus le cas. Et comme je le disais, et l'exemple est intéressant du CPS de Bruxelles...
Qu'on vienne plus demander de l'aide, donc.
Il faut que les gens aillent demander de l'aide. Il faut des campagnes d'information massives dans les transports en commun, dans les rues. Il faut que les gens sachent que l'aide est là. On sait déjà avant la crise Covid, comme je l'ai dit, que les gens vont difficilement demander de l'aide, soit parce qu'ils ne savent pas, quand ils savent... elle est complexe. On a parlé pour le droit passerelle, on a parlé... l'aide est complexe à trouver, aller chercher un psy, les gens ne savent pas où s'adresser. Mmh. Et alors, on sait aussi que quand les gens changent de statut, quand on passe d'un statut à un autre, c'est souvent à un moment donné où les gens disparaissent des radars. Donc, il faut aller chercher les gens là où ils sont, il faut encourager et soutenir les travailleurs sociaux pour qu'ils puissent aller dans les rues, hors de leurs murs, chercher les gens et faire des campagnes d'information massives, parce que sinon, ça va être vraiment dramatique. Donc, les CPS, ils ont eu un soutien, il va falloir qu'il soit prolongé en 2021, parce qu'on sait qu'il y a un effet de retard. Et que là, aujourd'hui, la masse et la vague n'est pas encore arrivée. Elle va arriver, et donc on espère que le gouvernement va pouvoir prolonger cette aide, parce que s'ils doivent dépenser cet argent avant la fin de l'année, ils ne pourront pas aider ceux qui viendront en janvier, février, mars 2021.
Je viens de parler en préparation de cette émission du lien qui existait, qu'on ne soupçonne peut-être pas toujours justement, entre l'état social d'une personne, avec ce qui s'annonce très difficile pour certains, et leur état psychologique. Cette impossibilité qu'ils ont de voir la vie en rose quand ils sont à un moment donné submergés par les problèmes. C'est vers ça qu'on va ?
Ah mais oui, c'est clair. Je peux vous dire, j'ai vu en consultation hier à domicile quelqu'un, une dame qui est submergée de factures tous les matins et qui a déjà commis plusieurs tentatives de suicide depuis. Et c'est ce qu'elle dit. Elle dit c'est insupportable.
Qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là ? Ce n'est plus possible, justement, de leur faire entendre raison et d'essayer de leur faire remonter la pente.
Essayez de faire entendre raison. Vous appelez la mutuelle pour essayer de régulariser la situation de la dame. L'assistant social essaye de contacter la mutuelle. Vous êtes le 25e sur la liste d'attente, 1h25. 1h25 d'attente à la mutuelle. Moi, j'ai contacté des mutuelles pendant la Covid, pendant le confinement. Je n'ai jamais eu de réponse. Alors, ça n'est pas le cas de tout le monde. Mais en tout cas, ça arrive. Donc, la question de l'accessibilité des services est vraiment très compliquée. Et ça peut être le même cas dans d'autres types d'administration. Ce qu'il faut savoir, c'est que... Alors, pour certains, la crise est vraiment finie. Hein, parce qu'il y a une suspension... Les gens ont été chez eux, travaillaient à domicile pendant le confinement. Mais maintenant, le contrôle, ça reprend. Hein. Et donc, les gens qui n'ont pas payé leurs factures à temps, il y a déjà une explosion de convocations à la justice de paix. Il y a quelque chose au niveau des contrôles qu'il faut pouvoir lâcher. Des indépendants, des artistes, contrôlés par le Forum, contrôlés par les CPS, etc., ils ne vont jamais entrer dans ce type de culture. C'est insupportable. Il faut réfléchir quelque chose au niveau de la manière de laisser la liberté de création aux gens.